VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Midi à Dakar, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Tchad, toujours pas de nouvelles des trois activistes des droits de l'homme arrêtés par l'ANS, l'Agence nationale de sécurité. Nadjo Kaina totalise 19 jours de détention. Dinga Manayel, Nelly Versinis, 14 jours. Et Bertrand Solongandje, lui, passe sa 11e nuit au secret. Ce lundi 24 avril, sans être présenté à la police judiciaire ni à un juge. Les familles des prisonniers se disent très inquiètes concernant leurs conditions de détention. Dominique Yemtaba, oncle de Bertrand Solongandje, dénonce une situation intenable. On l'écoute.
Bertrand a été enlevé, conduit à un poste de police. Il est quand même aberrant pour nous qu'un citoyen puisse être dans les locaux de la police et qu'il disparaisse. Alors, ce qui nous conduit maintenant à exiger sa libération sans condition. Si jamais il arrive quelque chose à Bertrand, nous tenons pour responsable les autorités puisqu'il est parti des locaux de la police. Et Bertrand a une santé fragile et depuis qu'il a disparu, nous n'avons ni accès à lui, il n'a jamais eu accès à un avocat pour pouvoir aussi plaider son sort par rapport à sa situation sanitaire.
Dominique Yemtaba, oncle du militant des droits de l'homme Bertrand Solongandje, en détention au secret depuis 11 jours au Tchad. Au Nigeria voisin, 4 personnes tuées aujourd'hui dans 2 attentats suicides à la périphérie de Maïdougouri, chef-lieu de l'État de Borno et berceau du groupe islamiste Boko Haram dans le nord-est du pays. C'est ce que rapportent ce lundi des membres des milices civiles. Le premier attentat a eu lieu dans le village de Mamaniti, à une quinzaine de kilomètres de la grande métropole du nord-est. La seconde attaque a eu lieu à Mainari, à 10 kilomètres à l'ouest de Maïdougouri. Lutte contre le terrorisme au Niger, le combat contre Boko Haram est pratiquement gagné, affirme le ministre nigérien de l'Intérieur dans une interview à VOA Afrique à Niamey. Par contre, Mohamed Bazoum a beaucoup d'inquiétudes concernant le Mali. Au micro de notre envoyé spécial Nicolas Pinault, le ministre Bazoum revient ici sur la situation dangereuse existant le long de la frontière entre le Mali et le Niger.
Nous avons le Mali qui est une grosse menace susceptible de remettre tout en cause parce que la différence entre Boko Haram et le Mali, c'est que Niamey, notre capitale, est à 200 km de la frontière malienne. Là, le front est beaucoup plus vif, les menaces sont plus prégnantes, et les risques sont plus grands. La situation ne s'améliore pas, au contraire. C'est pas seulement notre frontière, malheureusement, c'est que c'est le centre du Mali, même la région de Mopti, où la situation s'est le plus dégradée. C'est une zone où vous n'avez pas l'aménagement, mais de façon générale, je pense que l'aménagement n'a pas été un modèle d'efficacité. C'est une opération de maintien de la paix. Or, nous ne sommes plus au Mali en situation de paix, malgré l'accord d'Alger et la zone entre Menaka et notre frontière à nous est truffée de terroristes qui ont quelques sanctuaires de ci, de là.
Le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum. Afrique de l'Ouest, toujours au Burkina Faso, l'association interprofessionnelle du coton, qui regroupe les cotonculteurs et les sociétés cotonnières du pays, a tenu une assemblée générale. Parmi les résultats, le prix d'achat du coton aux producteurs va passer de 235 francs CFA à 245 francs CFA pour la campagne 2017-2018. L'association a aussi tiré le bilan de la campagne écoulée, marquée par l'abandon du coton OGM. De Ouagadougou, le reportage de notre correspondant Zoumana Wonogo.
En décidant l'abandon du coton OGM pour le retour au conventionnel, ce n'était pas sans appréhension pour les sociétés cotonnières du Faso. Mais, au finish, que retenir? Suivons les chiffres comparatifs avec Georges Yamego, le secrétaire général de l'AICB, Association interprofessionnelle du coton du Burkina.
Superficie coton emblavé, 740 349 hectares, soit une augmentation de 12% par rapport à 2015-2016. Production collectée, 683 000 tonnes de coton graines contre 586 000 tonnes enregistrées la campagne dévancière 2015-2016, soit une augmentation de 16%. Rendement moyen, 922 kg par hectare contre 885 kg par hectare l'année passée, soit un progrès de 4% par rapport à 2015-2016. La marge après remboursement des crédits au niveau des producteurs se situera globalement à 96 milliards de francs CFA cette année contre 84 milliards de francs CFA la campagne écoulée.
Cette bonne performance a poussé les sociétés coutonnières à revoir à la hausse les prix d'achat pour la campagne à venir. On écoute Wilfried Yamehou, directeur général de la Sofitex.
Le prix d'achat du coton graine sera de 245 francs le kilogramme pour le premier choix. En ce qui concerne donc les engrais, nous avons maintenu le même niveau de prix que ceux de la campagne précédente et les insecticides également, nous avons maintenu le même prix. Les comités de crédit que nous avons tenus indiquent déjà, sans cette annonce, des niveaux de production qui tourne autour de 820 000 tonnes pour la prochaine campagne.
Comment les producteurs de coton ont accueilli cette hausse du prix d'achat?
Koulibaly Bouramani, producteur de Bondokoui, on est content. Comme il a ajouté les 10 francs là, et puis il n'a pas ajouté les intrants là, c'est le même prix là, comme l'année passée, je crois que c'est bon.
Yakoro Bazi Hervé, producteur à Dara. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont augmenté le prix du coton à 245 francs. C'est juste, mais c'est pas arrivé chez les producteurs. Les 10 francs là, c'est bon, mais chaque année, on voulait qu'on donne 10 francs aussi pour achat complémentaire.
L'abandon du coton OGM avait donné lieu à un litige entre les sociétés cotonnières et la firme Monsanto. Où en est-on avec ce dossier? Suivons les explications de Ali Compaoré, le directeur général de la Socoma.
Au départ, nous avions une prétention de 48 milliards de francs CFA. Malheureusement, à l'arrivée, nous avons dû conclure sur un montant qui est nettement inférieur et qui est de l'ordre de 11 milliards 300 millions de francs CFA. Donc c'est ce montant-là versé par la partie Monsanto qui permet aujourd'hui donc de clore définitivement ce dossier et de nous permettre également de prospecter d'autres pistes en matière donc de biotechnologie.
Zoumana Bounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique du Sud, le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a réclamé dimanche la mise en place d'une commission d'enquête sur les allégations de corruption au sommet de l'État. Des précisions avec Rosine Munezero.
Alors que Cyril Ramaphosa rendait hommage à Chris Hani, une icône du mouvement anti-apartheid assassiné en 1993, il a déclaré hier « Nous devons être honnêtes et assez courageux pour affronter la corruption au sommet de l'État ». Son appel en faveur de la création d'une commission d'enquête sur la corruption intervient 5 mois après une recommandation similaire de l'ex-médiatrice de la République, Tuli Madonsela. Elle avait notamment souligné l'apparence de collusion entre le président Jacob Zuma et une richissime famille d'hommes d'affaires, les Gouta. Son rapport explosif n'a pas eu de suivi. Le vice-président Ramaphosa, qui aspire à diriger le Congrès national africain et éventuellement l'Afrique du Sud, affirme que faute de solution à ces problèmes, le soutien électoral du parti au pouvoir va continuer à diminuer. Jacob Zuma, embourbé dans plusieurs scandales de corruption, est perçu comme le principal coupable des récents déboires politiques du parti de Nelson Mandela. L'ANC, au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994, a subi un fort recul lors des élections municipales d'août 2016.
Après Djibouti dimanche, le secrétaire américain à la défense Jim Mattis est maintenant en Afghanistan dans le cadre de la tournée qu'il a déjà conduite chez les alliés des États-Unis dans le golfe Persique et en Israël. Le numéro 1 du Pentagone est arrivé ce lundi à Kaboul, 3 jours après l'attaque meurtrière des talibans contre l'une des plus grandes bases militaires afghanes à Mazar-e-Sharif dans le nord du pays, qui a fait plus de 150 morts pour la plupart des jeunes recrues. Un revers qui a entraîné la démission aujourd'hui du ministre afghan de la Défense, Abdullah Habibi, et du chef d'état-major de l'armée afghane, le général Kadam Shah Shaim. Jim Mattis avait fait auparavant escale à Djibouti parce que ce petit pays de la Corne de l'Afrique abrite la seule base militaire américaine sur le continent africain. Jean-Roger Bion.
Le général Mattis a parlé de Djibouti comme d'un carrefour géographique important. Le port de Djibouti dans le détroit de Bab el-Mandeb est utilisé par les marines américaines et françaises et environ 10 autres nations selon un responsable américain. Le secrétaire à la défense s'est entretenu avec son homologue djiboutien et le président Ismaël Omar Guelleh. La base est essentielle pour les exercices et les opérations des États-Unis sur le continent et les forces spéciales américaines l'utilisent pour mener des opérations antiterroristes contre Al-Shabaab en Somalie voisine.
Et vous terminez en France, 29 personnes ont été placées en garde à vue après des manifestations antifascistes à Paris dimanche soir à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle française. Les manifestants protestaient contre le centriste Emmanuel Macron et la candidate de l'extrême droite Marine Le Pen, qualifiée pour le second tour des présidentielles le 7 mai. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.